Bonjour, docteur Frémont.
Bonjour.
Ça se passe bien du côté de Québec?
Très bien.
Vous avez de la neige?
Jours avec la pluie, mais
ah,
ça,
de
ça
la
va
pluie.
Bien.
Bon. Lors de votre dernière participation à l'émission, on avait abordé ensemble davantage les recommandations pour éviter les commotions cérébrales chez les jeunes sportifs. J'avais envie de vous réinviter pour parler plus globalement de commotions cérébrales. Et j'aimerais ça commencer avec une citation qui, je trouve, illustre très, très bien ce que peut représenter une ou des commotions cérébrales. Une citation de l'ex-joueur des Alouettes de Montréal, Étienne Boulet, qui dit « C'est comme un CV, les commotions, ça te suit. Peu importe si tu changes de niveau, le compteur ne se remet pas à zéro. » Et j'avais envie de parler avec vous, Dr. Frémont, justement de ces impacts-là des commotions cérébrales, parce que une personne qui en a subi une est 5 fois plus à risque d'en faire une nouvelle. Donc, des commotions répétées, ça a des séquelles très, très graves sur le cerveau des gens.
Oui, effectivement. Par contre, ce genre d'analyse-là ou cette citation-là, elle traduit probablement en bonne partie le fait que les commotions cérébrales sont mal identifiées lorsqu'elles surviennent initialement et que les blessures qui sont identifiées sont en fait l'aggravation de premières blessures passées inaperçues dans une bonne proportion des cas. Et ce qu'on a encore espoir de pouvoir améliorer énormément, c'est l'identification des commotions cérébrales lors des tout premiers symptômes, au tout premier niveau de participation dans les sports, alors que elles peuvent très bien guérir si on retire les jeunes, on les protège suffisamment longtemps, puis qu'on applique des approches graduelles de retour à l'apprentissage puis au sport.
Bien sûr, c'est important de la faire, la nuance, parce que Étienne Boulet, lui, ex-joueur de football, a subi bon nombre de commotions cérébrales. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Est-ce que les séquelles, par exemple, qui sont imputées à des commotions cérébrales sont permanentes, Dr. Frémont?
Bien, la bonne nouvelle, c'est que, surtout pour les plus jeunes, là, ou les parents des plus jeunes qui sont inquiets de les voir s'impliquer dans des sports comme le hockey, c'est que la grande majorité des commotions cérébrales bien identifiées vont bien guérir sans séquelles. C'est l'enchaînement des blessures auxquelles je faisais allusion tout à l'heure qui vraisemblablement se traduit par une fragilité établie, puis éventuellement même des séquelles qui peuvent être prolongées et plus rarement permanentes.
On parle de bien identifier la commotion cérébrale. On fait comment? Parlons-en.
Ça se fait avec une très haute technologie, l'éducation. Donc, il faut vraiment, vraiment passer plus de temps en réunion de début d'année avec nos équipes de sport, de basketball, de hockey, pour apprendre aux jeunes, apprendre à leurs parents, et les entraîneurs, évidemment, chez qui ça devrait déjà être bien fait, quelles sont les manifestations d'une commotion cérébrale qui sont extrêmement variés, peu spécifiques, le mal de tête, la nausée, l'émotivité, des problèmes de mémoire, de confusion, et j'en passe. Mais c'est des choses qu'il faut savoir rechercher. Lorsqu'un jeune a un bon contact, un coup à la tête ou un coup au corps qui l'ébranle, il ne faut pas que l'entraîneur cherche son guerrier le plus rapidement possible. Il faut qu'il questionne son jeune à savoir s'il a des symptômes de commotion cérébrale.
C'est-à-dire, les questions pourraient être « As-tu mal à la tête? » C'est ce genre de questions-là qu'on pose?
Voilà. Te sens-tu bien? Te sens-tu ébranlé? Es-tu étourdi? As-tu mal à la tête? Et de rechercher un jeune qui nous regarde droit dans les yeux, qui dit « Non, je n'ai rien de tout ça. Ça va bien. C'était rien qu'un bon coup à l'épaule ou j'ai perdu le souffle. » Et non, je n'ai aucun de ces symptômes-là. Mais il faut les rechercher.
Mm-hmm.
Si le jeune sent qu'il est attendu sur le jeu à tout prix parce que c'est un des bons joueurs de l'équipe et qui c'est la réponse que veut avoir l'entraîneur, qui n'est pas du tout à la recherche d'éventuels symptômes, mais le jeune va dire « OK, je suis prêt », malgré son début de mal de tête.
on parle des entraîneurs, on parle également de l'équipe scolaire, l'équipe école, mais il y a les parents aussi qui doivent être sensibilisés parce que parfois les symptômes se manifestent plus tard. Ça peut prendre 48 heures, Dr. Frémont.
Ah, tout à fait. D'abord, premièrement, des fois, les symptômes ne sont pas identifiés et effectivement, ils peuvent apparaître dans l'autobus sur le retour du tournoi et c'est le parent qui devrait avoir reçu l'information pour se rendre compte que son jeune n'est pas tout à fait lui-même. Il est soit un peu somnolent, un peu dans la lune, un léger mal de tête, etc.
En préparation de cette émission, j'ai parlé à des gens qui ont subi des commotions cérébrales, pas nécessairement dans le sport, mais justement, comme je le disais d'entrée de jeu, suite à un accident de voiture ou de travail. Et selon eux, il y avait également un changement dans leur santé mentale, c'est-à-dire beaucoup plus d'émotivité, on en a parlé, mais également des phobies, avoir peur davantage, avoir des flashbacks également de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a réellement des impacts sur la santé plus mentale de la personne touchée?
Ça peut arriver. C'est pas l'évolution typique d'une commotion bien gérée. Par contre, ce qu'on voit beaucoup chez les adultes, c'est que le problème est... Ils se font dire, vous avez seulement une petite commotion cérébrale, vous retournerez au travail lundi, prenez ça tranquille demain. mais ils devraient avoir un respect de l'organe blessé qui est le cerveau. Et tant que ces gens-là, adultes, travailleurs, qui ont des symptômes, difficultés de concentration, un mal de tête qui apparaît après une heure de travail, c'est des signes qu'il faudrait reconnaître que le cerveau n'est pas guéri et il faut le laisser se reposer. Alors, les gens prolongent leurs symptômes, et ça a été bien démontré, s'ils ne respectent pas une période de repos nécessaire avant de retourner se servir de leur cerveau.
C'est quoi cette période-là nécessaire? Bon, c'est variable, j'imagine, chez chaque personne, mais...
Effectivement, c'est variable, et ce qui est recommandé, c'est d'attendre la disparition des symptômes en étant tranquille. Ça, c'est le minimum. Et après ça, d'essayer de s'aménager du temps pour stresser le cerveau de façon progressive, comme on a appris à le faire avec l'effort physique. Mm-hmm. Bien, maintenant, ce qui est un peu mieux fait et qui devrait être de mieux en mieux fait, c'est de stresser graduellement le cerveau. Donc, faire des courtes périodes de stimulation cognitive, de lecture, et de voir comment le cerveau réagit avant de se lancer dans une semaine de travail à un rythme imposé par un employeur.
Bon, période de repos obligatoire, mais il y a également d'autres recommandations à observer. Je le disais, éviter l'alcool, éviter de trop travailler devant un ordinateur également.
Oui, le travailler à l'ordinateur, c'est une stimulation cognitive, surtout si on parle de jeux vidéo chez les jeunes. C'est très, très stimulant, c'est demandant. Ils font une analyse continuelle de toutes sortes d'informations combinées. Et c'est pas pour rien que ça crée chez les jeunes qui n'ont pas de commotion, ils ont des problèmes de sommeil, ils sont tellement stimulés que ça leur prend du temps à arriver à dormir. Alors, ça traduit le stress sur le cerveau, l'état d'excitation du cerveau, et ça, c'est pas bon en période de commotion.
Et l'alcool également, autre chose, le bruit, autre chose à observer?
Ben, en fait, oui, c'est toutes des stimulations. La lumière, le bruit peuvent augmenter les symptômes. Et quand c'est le cas, ben, il faut les éviter.
Mm-hmm. Je reviens à ce qu'on abordait tout à l'heure, au début de notre conversation, à savoir que quelqu'un qui a subi une commotion cérébrale est cinq fois plus à risque d'en faire une nouvelle. Pourquoi donc ça arrive, ça?
D'abord, c'est possiblement et probablement un peu le fait que le cerveau est fragilisé. Mm-hmm. Mais on peut avoir espoir aussi que c'est en bonne partie dû au fait que les épisodes sont mal identifiés, qu'ils s'enchaînent au début. Mm-hmm. Et lorsqu'on a enchaîné quelques épisodes, là, on a une fragilité établie. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on devient très bon comme société à identifier précocement les commotions alors qu'elles sont très simples, peut-être qu'on va voir beaucoup moins cet effet de fragilisation.
Et bien sûr, on en parle de plus en plus parce que, et ça, on en parlait lors de notre première discussion il y a de ça quelques semaines, parce qu'il y a des grands sportifs, Sidney Crosby, Étienne Boulay en est un également, qui ont été touchés par les commotions cérébrales. Ça a affecté leur façon de travailler, leur travail directement. Le grand public a été interpellé par ça. Et là, on a pu commencer de plus en plus à faire ce dont vous parlez, la grande technologie de l'éducation, pour en parler au grand public. Mais une question qui s'adresse à vos collègues, est-ce que les médecins de famille, là, notamment, sont sensibilisés à ça quand ils voient quelqu'un arriver au bureau avec peut-être une commotion cérébrale, capable de dire, ben, je vais t'arrêter X temps, je reconnais ça?
Bien, récemment, on s'est posé exactement cette question-là dans une étude à laquelle j'ai collaboré. Et on a démontré que par des questionnaires auprès des médecins de salle d'urgence, auprès des pédiatres impliqués en première ligne chez les jeunes et auprès des médecins de famille, que la proportion qui était de ces personnes-là, qui se disaient bien familières avec les normes de pratique concernant les commotions cérébrales, est encore très sous-optimale. Donc, il y a encore une bonne proportion de ces intervenants-là de première ligne qui n'est pas bien au fait, bien préparé à donner des bons conseils. Et c'est pour ça qu'il faut leur fournir les bons outils. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire à la collaboration canadienne. Mm-hmm. C'était un objectif sur lequel on a travaillé un bon moment et sur lequel on va continuer de travailler, c'est-à-dire la formation des professionnels de la santé, développement d'outils pour les aider, même s'ils n'ont pas tout dans leur mémoire vive, s'ils ont accès facilement à un outil pour donner les bons conseils. Ça facilite beaucoup les choses.
Oui, tout à fait. Puis après, pour pouvoir divulguer ces informations-là aux gens qui sont vraiment soit sur les terrains de football, dans les arénas, dans les écoles, bien sûr. Autre chose qui était assez consternante quand je lisais sur les commotions cérébrales, c'est tout le lien avec le vieillissement du cerveau sur le fait d'avoir eu plusieurs, bien sûr, là, on parle de gens qui ont été touchés plusieurs fois par les commotions cérébrales, les probabilités de développer des maladies neurodégénératives, comme maladie d'Alzheimer, par exemple, ça pourrait augmenter le risque. Est-ce que c'est vrai, ça, Dr. Frémont?
Bien, en fait, l'entité dont on soupçonne très fortement le lien avec les traumatismes répétés à la tête, elle s'appelle l'encéphalopathie chronique traumatique. Mm-hmm. Et c'est une entité qui, lorsqu'on analyse les tissus, là, la neuroanatomie, la neuropathologie, c'est une entité qui est distincte, qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique, les différentes maladies neurodégénératives. Donc, c'est une maladie qui a ses propres caractéristiques. C'est pour ça qu'on est en mesure qu'on croit de plus en plus que c'est en lien avec les blessures répétées à la tête. Mais encore là, il faut comprendre que c'est en lien avec des très lourdes histoires de traumatisme à la tête. C'est en lien avec des retours prématurés, l'enchaînement de traumatismes. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui menace les jeunes qui vont subir une, deux, trois commotions bien gérées, donc qui ne s'enchaînent pas les unes sur les autres dans une carrière de sport.
Oui, oui. Et dans une carrière de sport, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que les jeunes sont sur les terrains de jeu, sont sur les glaces, sont sur les terrains de football. En terminant, c'était l'une de mes questions, on ne l'a pas nécessairement abordée, mais je reviens justement à l'impact de la commotion cérébrale sur les enfants. J'imagine que si c'est bien guéri, si le rétablissement se fait de façon adéquate, les impacts ne sont pas tant là sur leur développement, mais si c'est mal géré, il y a un impact sur l'enfant qui grandit?
Ben oui, effectivement, le jeune qui a une commotion qui s'avère compliquée, qui donne des séquelles sur plusieurs semaines, ben, il va avoir des cassures de performance scolaire. Et en général, on voit une éventuelle résolution de ces choses-là et sur un parcours scolaire. C'est très exceptionnel que ça a des conséquences à long terme, mais il faut à tout prix éviter ça.
Oui. Vous faites toujours rassurant, Dr. Pierre Frémont. J'imagine que c'est parce que vous êtes encouragé de ce qui se passe en ce moment, de ce que vous voyez ou entendez autour de vous.
Oui, parce qu'on sent le changement de culture depuis depuis certains événements médiatiques qui ont mis en évidence les commotions cérébrales, on sent une volonté, malgré des ressources parfois limitées là, dans le monde sportif, des niveaux de participation là, civils, provinciaux, etc., on sent une grosse volonté de recevoir la bonne information, de la transmettre, de mettre en place les bonnes façons de faire. Et ça, c'est très encourageant. Là, on travaille avec les gens actuellement. On travaille pas... Il y a encore quelques esprits résistants avec des cultures de guerriers, là, mais je dirais que j'ai confiance que c'est une espèce en voie de disparition. Là.
Oui. Docteur Pierre Frémont, vous êtes le président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Merci beaucoup. Bon week-end.
Ça fait plaisir, vous aussi.
Au revoir.